deuxième inscrit pour la journée, un physicien très jeune de l'Université McGill qui suit nos émissions d'ésotérisme expérimental depuis déjà un certain temps. Et il s'est rendu compte que nous utilisons à peu près les mêmes termes, le même vocabulaire que les gens scientifiques, dans le sens les rayons, les champs de force, le monde parallèle. Et avec lui, on va peut-être enfin comprendre ces mots dans leur véritable sens, puisque la science, qui est à un extrême, et la religion, la spiritualité, qui semble être à l'opposé extrême, utilisent des termes semblables. Alors c'est peut-être enfin le lien de contact entre ces deux extrêmes. On va peut-être les rapprocher, nous, aujourd'hui, avec une explication du vocabulaire. Allons-y. Alors, est-ce que... ah oui, votre prénom, c'est Robert Saint-Onge. Il est très, très nerveux. D'abord, il n'a jamais parlé en public. Et puis, il nous supplie de tolérer sa nervosité, mais ça va partir vite à force de parler.
Ah, mais c'est un honneur. C'est un honneur que tu me fais. Parce que c'est pas comme parler devant des copains, tu sais, qui connaissent pas l'ésotérisme. Je parle avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Tu sais, que c'est différent.
Nous autres, en ésotérisme, moi, je vais parler du côté ésotérique, puis de votre côté, vous allez faire le côté scientifique. Mm-hmm. On parle beaucoup de les rayons. On dit qu'il y a les 7 rayons dans l'enseignement du tibétain. Et puis, le rayon, les yeux peuvent lancer des rayons. On a vu que sur la statue de Moïse, on fait 2 rayons, un pour le lobe droit, un pour le lobe gauche.
Et les bornes.
C'est ça. Alors, c'est quoi un rayon dans le domaine de la science?
Un rayon, c'est tout ce qui est lumière est émis sous forme de rayon. Tout ce qui est électromagnétique est émis sous forme de rayon. Quand on parle des 7 rayons, c'est probablement les 7 couleurs correspondantes aux 7 corps. On parle de rayons émis par les yeux, ben, ça, c'est encore une forme d'onde électromagnétique qui est émise. Parce que, vois-tu, la science, je ne veux pas commencer à critiquer déjà, là, mais la science a fait une erreur en divisant la gravité et l'électromagnétisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne comprennent pas la lumière, ils ne comprennent pas les photons, parce que justement, ils voient deux choses là où il n'y en a rien qu'une. On commence avec la lumière.
Oui, parce que ça va vite déjà, là. On fait une confusion en mélangeant
l'électromagnétique et la gravité.
L'électromagnétisme et la gravité. Okay.
Il y a trois. On vit dans un monde à 3 dimensions. Okay. Il n'y en a pas 4, 5, 6, 7, il y en a 3. Chacune de ces 3 dimensions-là est, elle aussi, ternaire. C'est-à-dire qu'elle a 3 côtés. Vous avez l'espace, qui a 3 dimensions. Le temps, qui a 3 dimensions. Puis la troisième, qui est l'ordre, qui a 3 dimensions. Le photon est une particule, justement, qui émet une vibration sur ces 3 dimensions-là. Que vous avez la dimension, parce qu'à chaque dimension est associée à un champ de force. Chaque dimension, vous avez, par exemple, l'espace, qui on associe avec le champ électrique. Vous avez le temps, qui est associé au champ magnétique. Je vais vous dire pourquoi tantôt. Puis vous avez l'ordre, en triangle, vous avez l'ordre qui est associé, des RE, qui est associé avec le champ gravitationnel. Bon, pourquoi? Premièrement, celui-ci, c'est le fondamental. C'est la force fondamentale électrique. Elle ne dépend pas du temps, elle ne dépend pas du corps, elle ne dépend que du champ électrique. De l'espace. C'est une espèce de contraction d'espace. Maintenant, lorsque vous avez une variation du champ électrique dans le temps, on apparaît un champ magnétique. C'est-à-dire qu'un champ magnétique ne peut pas apparaître tout seul comme ça. Il doit toujours être associé à une variation dans le temps du champ électrique. Par exemple, si on prend le magnétisme d'un atome ou d'un aimant permanent comme tantôt, là, ce qui se produit, c'est que chaque atome a un spin qu'on appelle une rotation. Et puis, c'est la charge, OK, qui tourne et qui produit ce champ magnétique-là. OK, je peux vous donner les équations, mais ça va rien. Fait que vous avez un mouvement rotationnel d'une charge, ça produit un champ magnétique. Bon. L'espace, une variation dans le temps, champ magnétique. Maintenant, vous avez l'ordre avec la gravité. L'ordre, c'est ce qui est visible comme étant une espèce de symétrie. Si on regarde l'ordre dans l'espace, on voit la densité, la symétrie, ce qui est la coagulation. Et l'ordre dans le temps, on le voit comme étant une espèce de comment est-ce qu'on appelle ça, de stabilité. Stabilité temporelle, c'est-à-dire que l'ordre ne variera pas dans le temps, soit qu'il va prendre un degré. C'est ce qui, d'ailleurs, différencie la vie de la matière inerte. C'est que l'ordre dans le temps, si on regarde ici, ça c'est l'ordre, ici c'est le temps, la matière inerte s'en va comme ça. Okay? Ça, c'est la loi de l'entropie positive, qui dit que tout corps, laissé à lui-même, va se désorganiser. La vie fait le contraire. La vie part comme ça. C'est les deux pôles de l'esprit et la matière. La matière cherche à se désorganiser, l'esprit cherche à organiser. Et tu vois d'ailleurs le rapport entre l'ordre et la gravité, parce que la gravité, c'est ce qui organise les choses ensemble, c'est ce qui les colle ensemble. L'amour, l'ordre, la gravité, c'est tout uni ensemble. Maintenant, lorsqu'on parle d'onde, on parle de variation de une de ces ou de les trois dimensions. Une onde électromagnétique pure, c'est une variation du champ électrique et du champ magnétique. C'est-à-dire que vous avez, mettons ça, c'est le champ électrique. Mettons, je vais le papier. Mettons que vous avez ici le temps. Ici, vous avez l'intensité du champ électrique. Bon, ben, ça fait ça comme ça. OK? C'est-à-dire que dans le temps, le champ électrique va augmenter, va tomber à zéro, va diminuer à moins 5 ou moins 1, puis va remonter. En même temps que ça se produit, là, vous avez...
C'est pour le courant alternatif ou bien non?
C'est pour une onde électromagnétique.
Pour une onde électromagnétique, oui, elle va toujours faire plus 0, moins 0, plus 0, moins.
Puis vous avez l'autre, qui est la gravitation, qui est sur... pas la gravitation, mais la magnétique qui est sur l'autre axe, qui, lui, fait la même chose. OK, c'est difficile à voir, là, mais c'est sur deux plans, là. Vous avez un plan comme ça, puis un plan comme ça. Puis vous avez une onde qui s'en va comme ça, puis l'autre qui s'en va comme ça. Ça, c'est l'onde électromagnétique.
À 90 degrés, de perpendiculaire.
Oui, oui.
OK.
Les deux sont liés ensemble par la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que E est égal à la vitesse de la lumière fois le champ magnétique, vectoriellement tout le temps. Non? Encore une fois, on va revenir à la vitesse de la lumière. Ensuite, vous avez la lumière, OK? Mais nous autres, ça, là, ça n'existe pas vraiment. OK? C'est un beau modèle théorique, mais qui n'est jamais présent. Parce que, aussitôt que vous avez une variation dans le temps et dans l'espace de ces deux champs-là, vous avez l'apparition de la gravité. C'est-à-dire que vous allez avoir la troisième dimension, on ne peut pas mettre ce tableau-là parce qu'il faudrait la rentrer comme ça, là. La troisième dimension de l'onde, qui est la dimension gravitationnelle. Autrement dit, si vous faites, mettons, on prend un photon, petit grain de lumière là, qui s'en vient comme ça, puis vous faites une expérience d'interférométrie, une expérience qui permet de détecter la nature ondulatoire de la lumière électromagnétique. À ce moment-là, vous allez voir, ben oui, il y a vraiment une nature ondulatoire à la lumière. C'est-à-dire qu'il y a concentration ici, mais m'assure que la lumière s'est divisée en des petites machines, puis tu sais, ça c'est l'intensité ici. Tu vas avoir des anneaux comme ça, si tu mets une fente, tu vas avoir des anneaux comme ça qui vont se créer sur l'image. Okay? Comme si le photon s'était divisé en une multitude de petits mini-photons qui sont allés se placer à des endroits bien différents.
Comme des vagues aussi sur l'eau.
Mais c'est pour expliquer la vague. C'est ça, cette expérience-là, ça démontre la nature ondulatoire de la lumière. Maintenant, tu as la nature corpusculaire que Einstein a trouvée, qui dit que lorsque tu as un atome ici, puis tu as un électron sur un orbite ici, ça c'est le noyau ici, là, tu as l'électron là, puis tu as un autre orbite ici, qui, elle, ne contient pas d'électron pour l'instant, puis tu as un photon qui s'en vient, puis qui frappe cet électron-là. Alors, cet électron-là va jumper ici, va absorber l'énergie du photon, va sortir sur une orbite plus grande, puis après ça, il va réémettre sa lumière en redescendant sur une orbite normale. Il va redescendre au ground state, qu'il appelle, puis là, il va réémettre un autre photon. Alors, ça prouve qu'un photon, il est matière. Puis, s'il cogne un électron, c'est pas une vague qui va le cogner, c'est paf! Ça le cogne, moi, je te cogne en vert, tu sais. Pour qu'il bouge, il faut que j'aie quelque chose de matière. Donc, qu'est-ce qui arrive? Là? Le photon, est-il matériel ou bien non, s'il est ondulatoire? Ça, c'est une question qu'il n'y a pas un scientifique capable de répondre. D'accord. Moi, je vous dis que le photon est les deux. Parce que il possède la dimension électrique, la dimension magnétique, et puis la dimension gravitationnelle. Ce qui fait que lorsqu'on fait une expérience à voir ce qui est électromagnétique, on dit, ben oui, il est électromagnétique. On mesure le plan électromagnétique, on détecte qu'il est bel et bien électromagnétique. Si on détecte savoir s'il est coagulé, ben oui, il y a la notion de gravitation, donc il est coagulé. Ben, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout ça. C'est ça, le photon. C'est pas plus compliqué que ça. Si maintenant le photon passe autour d'une étoile, bon, ben, vous allez avoir ces dimensions-là qui vont rentrer en ligne de compte, puis là, le photon va courber autour de l'étoile. S'il passe dans les environs d'un champ magnétique, électromagnétique intense, ben là, il va être distorsionné encore là. Il va changer de couleur, il va faire ci, il va faire ça. C'est ça qui est un onde. Une vibration, un rayon, c'est ça. C'est une variation dans le temps de champ électrique, magnétique et gravitationnel.
Quelle est la nature du photon? C'est quoi?
C'est la particule élémentaire de l'univers. C'est-à-dire la base avec laquelle l'univers a été construit. C'est la matière non coagulée. C'est-à-dire que la matière, c'est une gang de photons réunis ensemble qui forment la matière.
Donc un électron, c'est un amalgame de photons.
Oui.
Puis un proton aussi.
Oui. Si tu vas dans les protons, si tu vas les muons, les quarks, c'est...
Les muons, les...
Il y en a plein de particules, là.
Tout
c'est
ça...
C'est tout à base d'un photon, oui. Tout à
donc,
base d'un photon.
À la base de tout, c'est le photon.
C'est la lumière, oui.
C'est la lumière.
Parce que le photon, c'est un grain de lumière.
Que la lumière soit.
Mm-hmm.
Et la lumière
oui, parce
plus.
Que tu vois que ces trois champs-là, comme j'ai dit, sont associés aux trois dimensions de l'univers. Et puis, ce qui forme le continuum... qui forme l'univers comme tel, c'est justement une accumulation de ces trois dimensions-là générées par les photons. C'est ce qu'Einstein a prouvé quand il a mis à terre la théorie des terres. C'est qu'il a dit que tu n'as pas besoin des milieux pour que la lumière se propage. T'sais, avant, on disait ben, pour qu'il y ait une vague dans l'eau, il faut qu'il y ait de l'eau. Mais lui, il a dit non, c'est pas vrai ça. Il a dit le photon génère autour de lui les milieux qu'il a besoin pour propager. C'est exactement ça que je suis en train de vous dire. C'est que le photon, justement, c'est la base du continuum. C'est la grille fondamentale du continuum, c'est le photon. Et après ça, tout le reste se construit. Bon, la preuve. Lorsqu'on prend l'interaction électromagnétique, c'est la force électromagnétique, là. Non, je ne veux pas vous perdre. Lorsqu'on prend, mettons, un électron ici, négatif, un proton ici, je l'ai fait évidemment plus gros, là, parce qu'il est 1869 fois plus gros. Il y a une interaction entre les deux, une force. Okay? Bon, pour qu'il y ait une force, pour que moi je puisse te tirer, il faut que je t'accroche. Okay? Il faut qu'il y ait un milieu pour que la force se propage. Okay? Bon, ben, pour la physique, le milieu, c'est justement un photon. C'est le photon qui interagit entre l'électron et le proton. Pour qu'il y ait justement cette. Autrement dit, pour que le proton sache que l'électron est là, c'est parce que l'électron, il a envoyé un photon au proton pour lui dire, hey, je suis là. Et là, le proton, il dit, OK, je vais aller le voir. Et il s'en va. Il se colle.
Quand on dit qu'il n'y a pas de vide dans l'univers matériel, il y a un semblant de vide. Là. On parlait de l'éther la semaine dernière avec Bernard Grabe. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des photons partout?
Oui. Oui.
Alors, comment se fait-il qu'on peut voir un rayon de lumière à un moment donné? Là, il y aurait intensité de photons dans cette région-là.
Le spectre électromagnétique, là, il est bien long. On parle d'une fréquence de 0 à une fréquence de 10 à la, mettons, 23. Okay? 10 à la 23, parce que je veux pas me chicaner avec celui qui était tantôt, là. Mais 10 à la 23, c'est pas 10 avec 23 0, c'est 1 avec 23 0. 10 à la 2, c'est ça. Ça fait que c'est 1 avec 2 0. Mais c'est ça pour moi. Vous avez tout ce spectre-là possible de radiation, d'ondes, et de rayons, appelez comme tu sais, la même chose. Il y a une petite ligne. Alors, sur cette échelle-là, là, ça fait rien que ça. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le visible. Okay, vous avez l'audible qui est ici. Vous avez le sensible qui est là. Juste une toute petite partie de la lumière peut être perçue par notre sens de la vue. Une autre petite partie est perçue par l'audition, quoique l'audition va plus se servir de l'onde de matière. Je vais en parler tantôt, là. Puis les sens aussi servent plutôt de l'onde de matière, quoique ça aussi de la radiation électromagnétique ou de la lumière. J'aime pas prendre le mot électromagnétique. De la lumière dans le sens que l'infrarouge, c'est de la chaleur. L'infrarouge, ben, c'est juste ici, juste sur le bord, là, c'est visible. que pourquoi qu'on voit des étoiles qu'on n'en voit pas d'autres, pourquoi qu'il y a des étoiles noires, qu'il y a des étoiles blanches, qu'il y a des étoiles bleues, ben c'est que chacune de ces étoiles-là va vibrer n'importe où à peu près sur ce spectre-là. Fait que ceux qui vont vibrer dans le visible, on va y voir. Ceux qui ne veulent pas dans le visible, faut pas, on ne peut pas y voir. Il faut y aller avec les radiotélescopes, il faut y aller avec ça.
Donc, on est composé de lumière.
Oui. Oui.
Oh, homme, n'oublie pas que tu es lumière et que tu retourneras la lumière.
C'est la lumière coagulée. Tu sais, les deux principes des alchimistes, coagula, solvat. Wow. Bon, lorsque tu solves la matière, lorsque tu dissous la matière, tu obtiens la lumière. Et lorsque tu condenses la lumière, tu obtiens la matière. Les deux pôles, si on veut, de l'univers, ben, comme tu parlais de la science et de la religion, bon, la religion, il faut étudier le sens. La polarité esprit, la polarité lumière, la science explique la polarité matière. Alors, remarque que la science peut faire des erreurs, tout comme la religion peut faire des erreurs. C'est rien que lorsque tu arrives à mettre les deux ensemble, que tu peux faire une relation et dire, bon, ben, vous autres, vous êtes dans l'erreur parce que ce bord-là, c'est comme ça, puis ça doit être comme ça sur le bord aussi. T'sais. Mais ça, c'est pas demain la veille.
Les deux triangles, l'un dans l'autre, de l'étoile de David, qui présente Eshmaïm, le feu. Et la matière?
Le feu et la matière, le feu et l'eau.
Le feu et l'eau. Qu'est-ce que c'est que le feu exactement?
Le feu, c'est un dégagement d'énergie qui est provoqué par une espèce de stripage des électrons. C'est-à-dire que tu as des atomes qui sont composés. Mettons que tu as une molécule de... Ah oh là là, là tu me parles de chimie, pas trop de physique. Mais si tu as des atomes qui sont liés ensemble, lorsque tu vas induire une énergie qui va briser des atomes ensemble, à chaque fois, à ce moment-là, lorsqu'un atome, bon, je vais reprendre plus facilement parce qu'on va arriver à MC carré avec ça. Lorsque l'atome est formé, ok, mettons qu'on a un atome de carbone. Ok, on a un atome de carbone, il y a 6 protons puis 7 neutrons. Bah. Ça, cet atome-là, si vous prenez, non, tu sais, notre idée, nous autres, dirait que, bon, ben, la somme des masses à l'intérieur donne la masse totale du corps. Okay, donc, si on a 6 plus 7, on va avoir 6 fois le proton plus 7 fois le neutron va donner un carbone. Right? Wrong. C'est faux. C'est bizarre, hein, mais c'est vrai. Parce que ce qui arrive, c'est que l'atome tel quel a plus d'énergie que la somme de ses composants. C'est que ce surplus d'énergie-là vient pour que l'atome reste stable. Puis si tu sépares l'atome en deux, bon ben la composante des deux masses va être inférieure à ce que tu avais au départ. C'est-à-dire que si tu additionnes, mettons tu divises ça en 3 protons, 3 neutrons. 3 protons, 3 neutrons, c'est du beryllium, ça je crois. Bon. Tu divises ça en deux parties, ben la somme des deux parties des masses, M1 puis M2, sommation des M, est différent que la masse originale. Puis c'est cette différence d'énergie-là, OK, la différence de masse, si tu veux, que tu as multiplié par C carré pour te donner l'énergie qui sortit de la matière.
Et qui se manifeste en feu.
Oui.
En chaleur et en lumière.
Oui, là, c'est plus dans le sens des électrons, dans le sens que, là, ici, on parle d'énergie typiquement nucléaire, dans le noyau. Le feu, lui, c'est plus des liaisons qui sont faites avec les électrons. Avec les autres atomes, par exemple, la liaison covalente qui dit que tu as un électron ici qui va servir à la fois celui-là puis à la fois cet autre atome ici. Bon, ben, tu as un champ de force tout autour là, qui réunit tout ça. Bon, lorsque tu sépares les deux atomes, le champ de force n'a plus de place, qui est libéré sous forme d'onde et sous forme de chaleur.
Oui. Alors, on dit souvent que dans le feu, on retrouve la lumière et la chaleur. Oui. Vous nous expliquez la relation des deux qui est différente quand même. La lumière, c'est pas de la chaleur. La chaleur,
oui.
C'est pas de la lumière.
Oui, la chaleur, c'est de la lumière. La lumière, c'est de la chaleur.
Ben oui, si tout est des photons, finalement, tout revient toujours à
c'est la simplement la fréquence que tu
tout
parles.
Est un.
Oui, oui. Vois-tu, la chaleur, c'est lorsque tu es dans l'infrarouge. OK. Puis le visible, ce qu'on appelle la lumière. D'autres, ce qu'on appelle normalement la lumière, c'est le petit spectre électromagnétique qui est visible. Mais la lumière, la chaleur, c'est la même chose. Le visible est ici, puis l'infrarouge est là. Ça va dépendre, la quantité de lumière et la quantité de chaleur qui va être dégagée par un feu va dépendre justement de ce champ de force-là qu'on a brisé.
Tout est question de vibration.
Oui.
Dans le spectre.
Oui, c'est toutes les vibrations.
C'est le taux vibratoire qui change.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est que des vibrations?
Les vibrations, c'est compression-extension. Par exemple, on sait que la base de la vie, et sur ce principe à quatre temps-là. compression, accumulation de charge, décharge, décharge, décompression. Tu peux voir ça dans la cellule, quand elle se multiplie, elle va se comprimer, elle va accumuler des charges. Elle va décharger ses charges, puis elle va se décomprimer. On peut voir ça dans l'orgasme aussi. Je m'excuse de parler de ça, mais c'est toute la même chose. C'est le principe de base de la vie, ça. L'onde, c'est-à-dire la compression de la matière. Tu peux voir le son, c'est pareil. Le son, c'est que lorsqu'un son se propage dans l'air, c'est qu'à un moment donné, l'air se comprime. En se comprimant, accumule des charges. Ces charges-là, parce qu'ils sont tous de même polarité, se repoussent. Donc, il y a libération des charges et par la suite, justement, expansion encore une fois. Compression, expansion, compression, expansion. C'est le principe de base. C'est le même principe dans l'espace. C'est avec la lumière, c'est l'espace qui se contracte, l'espace qui se dilate, le temps qui se contracte, le temps qui se dilate. Lorsque l'espace se contracte, le temps se dilate.
Le yin et le yang.
Oui.
Hein? Le positif.
Ça va loin. Hein?
C'est quoi le positif et le négatif quand on dit toujours c'est positif ou c'est négatif? C'est ce qui va dans un sens puis c'est ce qui va dans l'autre sens?
C'est qu'il y a le biocentrique et l'égocentrique. Le positif émet à partir d'une source. OK? Puis le négatif, lui, absorbe. C'est tout des vecteurs. Si on ne parle pas en termes de vecteurs, on ne se comprendra pas. Il y en a un qui émet, l'autre qui reçoit. La matière est négative par rapport à l'esprit positif. Parce que l'esprit donne la vie, la matière la reçoit. La matière la catalyse ensuite.
Il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal dans tout ça. Tout doit être
tel que c'est. C'est une question d'époque, ça, bien mal. C'est une question d'époque. Ça existe, le bien et le mal. Je veux dire, ce qui aide les autres est bien, ce qui les nuit est mal. Mais le bien et le mal n'est là que pour l'homme. C'est là pour que l'homme puisse justement se démerder avec ça. Et lorsqu'il aurait réussi intellectuellement à se démerder avec le bien et le mal, il sera prêt à prendre ce qu'il y a après. C'est des étapes comme, comment je dirais bien, quand ton enfant est tout jeune, tu lui dis, bon, ben c'est la cigogne qui t'a amené au monde. Quand il arrive à 7 ans, il se demande si la cigogne existe pour le vrai. Là, tu lui dis, ben non, c'est pas une cigogne.
Et êtes-vous capable de nous expliquer, en ésotérisme, on dit souvent, il faut hausser ses vibrations pour réussir à entrer en relation avec les grands maîtres de la loge blanche universelle, où il faut baisser ses vibrations pour se calmer, méditer, être capable de retrouver son soi intérieur.
Oui. Là, on arrive avec une autre équation. Équation qui dit que l'énergie du onde est proportionnelle à une constante, on appelle la constante de Planck, fois la fréquence. OK? Parce que tu as les couches, comme un atome. Comme un atome a un centre, puis après ça, un paquet de couches périphériques. OK? Puis plus tu montes dans tes couches, puis plus l'énergie est élevée. D'accord? À ce moment-là, si toi, tu pars d'ici, qui est l'humain, admettons que l'humain est au centre, mais admettons que l'humain soit au centre, puis le ciel serait ici. Mais pour être capable d'aller au ciel, il va falloir que tu montes tes vibrations, parce que c'est en montant ta vibration, tu vas monter ton énergie, puis en montant ton énergie, tu vas changer d'orbite.
Là, tu viens d'utiliser le mot fréquence en haut, puis c'est synonyme de vibration.
Oui, ouais. Tu as deux mots qui sont inverses l'un à l'autre. C'est-à-dire que tu as encore une équation qui dit que la longueur d'onde fois la fréquence est égale à la vitesse de la lumière. Que, quand tu parles de taux vibratoire, tu vas parler de fréquence. Quand tu vas parler de vibration, tu parles encore de fréquence. Tu peux aussi parler de longueur d'onde qui se trouve être l'intervalle entre deux ondes. Par exemple, Einstein, puis c'est ça qu'on n'a rien compris dans la vitesse de la lumière. Hein. On a dit que la vitesse de la lumière est constante, que ça veut dire. Sauf qu'il faut que je vous dise ça. Alors, vous allez rire. Admettons qu'on prend un train, OK, qui s'en va sur une traque à 150 $. OK, puis moi, je suis en avant du train, puis il y en a un autre qui est en arrière du train. Puis moi, je décide de tirer une balle. OK, je tire pas une balle de fusil, mais une balle de baseball. Je tire une balle de baseball sur le train. Moi, je suis en avant du train, sur ma traque. Quelle vitesse la balle va arriver sur le train? Plus la vitesse du train. Puis si le gars est en arrière, c'est le contraire. C'est la vitesse du train moins la vitesse que j'ai lancée. D'accord? La lumière, c'est pas ça. C'est ça qui est croquant là-dedans. C'est que la lumière que tu lances de n'importe où, que tu ailles à n'importe quelle vitesse, elle va toujours t'arriver sur la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que si moi, mon train s'en va à 0.9 fois la vitesse de la lumière, je sais que c'est vite, puis il m'arrive un photon en avant et un photon en arrière, je vais les avoir arrivés à la même vitesse, la vitesse de la lumière, par rapport à moi, dans le train. Ça fait bizarre, ça. Hein? Ça fait pas de sens, mais c'est la relativité.
Oui, mais est-ce que ça, c'est prouvé par des chiffres?
Oh oui, c'est prouvé par des expériences, c'est prouvé par des chiffres.
Et par des expériences?
Oh, oui, l'expérience de Nicholson-Morey qui était assez probante là-dessus. D'ailleurs, il voulait servir de... Nicholson voulait servir de son expérience pour prouver qu'il y avait un éther, puis que le photon se déplaçait plus vite dans une direction que dans l'autre direction, puis ils ont mis des tables tournantes excessivement haute vitesse pour mesurer la vitesse de la lumière dans une direction, puis dans l'autre direction, puis ils sont arrivés à dire, ben excusez-moi, mais j'ai pas pu débattre votre théorie.
La notion qui fait que, attendez là pour rire, mais une soucoupe volante qui s'éloigne de la Terre, alors qu'elle émet une énergie de couleur blanche, disons.
On va l'avoir rouge.
On va l'avoir rouge, et qui s'approche de la Terre, on va l'avoir bleu.
Redshift. Ça, c'est une autre histoire. C'est que lorsque une particule va s'éloigner d'un corps, la lumière, elle est shiftée. C'est-à-dire, pour sortir une équation, ça ne donne pas grand-chose. Ça, c'est la même, d'après moi, là, je ne veux pas inclure les autres physiciens là-dedans, là, mais d'après moi, c'est le même principe qui va nier le Big Bang. C'est que les étoiles, par leur attraction gravitationnelle, se trouvent à ralentir les photons quand ils sortent. Et à ce moment-là, justement, des shiftés vers le rouge. Parce que d'autres, on observe les étoiles avec un redshift tout le temps. Quand tu regardes les étoiles, il y a toujours, dans le sens qu'on compare, OK? C'est-à-dire qu'on prend l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène va émettre certaines lignes spectrales bien caractéristiques. Si on compare ce qu'on reçoit d'une étoile avec nos atomes d'hydrogène qu'on reçoit du Soleil, on s'apercevra que le spectre a tout été shifté vers le rouge. C'est-à-dire que normalement, la ligne d'hydrogène qui sort à 2400 angstroms, bon ben là, cette fois-ci, elle va sortir à 2000 angstroms, 2400. Pourquoi? Bon Dieu, c'est parce que l'étoile s'éloigne, puis on utilise justement l'effet Doppler pour dire que, c'est l'effet Doppler, pour dire que ben la fréquence a été ralentie. Ça, d'après moi, ça n'a pas de sens. D'après moi, c'est que justement, c'est le champ gravitationnel de l'étoile qui fait que la chose ralentit. Et puis, lorsqu'il passe à travers plusieurs champs de force, ben, il ralentit de plus en plus. Puis c'est ce qui fait aussi qu'une étoile, la lumière ne peut pas sortir d'un trou noir. Mais ça, ils ne l'ont pas compris. Pourquoi la lumière ne sort pas d'un trou noir? Pourtant, elle est censée aller tout le temps à vitesse de lumière. Elle devrait sortir. Ils disent, ben non, le champ gravitationnel, il est trop fort. Ah, et voilà. Justement, vous avez l'indication du redshift. C'est parce que le champ gravitationnel qui ralentit le photon, puis finalement, il retombe dans le trou.
Ah oui, mais vous êtes d'accord avec la théorie officielle?
Non. Je suis d'accord, la théorie officielle du photon qui retombe dans le trou du trou noir, oui. Mais je ne suis pas d'accord avec la théorie officielle du redshift. Comme je dis, le redshift, les autres disent que c'est parce que c'est l'étoile qui se propage, qui s'éloigne de nous autres à une vitesse de fou, ce qui fait qu'on a un effet Doppler qui nous arrive sur nous autres. Moi, je dis que c'est non, c'est en sortant du champ de gravitation que le photon perd de la vitesse. Et donc, ralentit sa fréquence, descend sa fréquence.
J'aimerais que vous me répétiez très clairement qu'il y a plus d'énergie, plus on s'éloigne du cœur de l'atome.
Oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Ah, oui, c'est ça que je voulais
dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est plein ça. Plus tu s'éloignes du centre, plus tu as de l'énergie.
Parce que plus on s'éloigne du centre de la galaxie, dans le monde physique, matériel, là, plus on se retrouve sur les périphéries de la galaxie, ce qu'on est, nous, sur notre Terre, on a donc plus d'énergie ici qu'il y en a dans le fond, dans le centre de la galaxie.
Oui. Tu vas comprendre dans le sens que si tu prends une corde, tu mets un poids au bout, comme a fait, là, Jacques, puis tu la fais tourner. OK? Si tu as une corde qui a un pouce de long, la vitesse va être telle. Mais si tu as une corde qui a 100 pieds de long, puis tu as fait tourner à la même vitesse, il y a des expériences qui ont été faites pour essayer de faire tourner des objets à vitesse de lumière. En les mettant justement au bout d'une corde comme ça, puis en faisant tourner la corde. Avec une vitesse bien ordinaire ici, tu vas arriver à une vitesse excessivement grande là-bas. Tu vois la différence d'énergie entre la périphérie et le centre. Autrement dit, si tu ne fournissais pas l'énergie à la périphérie pour qu'elle reste périphérique, tu vas dans le centre.
Oui, alors là, on a une conception cosmique, si on veut, du macrocosme et du microcosme à la fois, là. Parce que tout est semblable, hein, infiniment grand, infiniment petit, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, c'est le même modèle qui se répète. D'ailleurs, la nature, ça ne complique jamais la vie. Tu peux le voir dans un cristal. Le cristal au complet, lorsqu'il est rendu macroscopique, c'est l'image exacte du petit microcristal au début. La nature fait la même chose avec l'univers. Elle commence par faire un modèle au départ, elle l'expérimente. Elle regarde s'il y en a un plus simple. S'il y en a un plus simple, elle le change, elle en prend un autre plus simple. Jusqu'à ce qu'elle arrive à quelque chose qui est fonctionnel et le plus simple possible. À ce moment-là, quand ça marche, on multiplie.
Alors, ce qui est vrai pour l'infiniment petit est aussi vrai pour l'infiniment grand.
À condition qu'on fasse ces projections pour vous.
C'est ça. Mais entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, il y a l'être humain qui se prend pour le nombril du monde. Il est peut-être le nombril parce qu'il est en plein
centre. Il est nombril de son nombre, son nombre de lui.
Oui, de son monde. Alors, quand on parle en ésotérisme, des corps subtils, des mondes parallèles, du monde visible et du monde invisible, des mondes dans lesquels on peut passer la main à travers, de la visibilité, de l'invisibilité, où on pourrait sortir de l'appartement ici à travers le mur. On a dit que le Christ était revenu avec un corps glorieux, etc. Alors, comment expliquer tout ça, scientifiquement?
Eh bien, les questions à une.
Bon, oui, c'est ça, là, c'est tout le vocabulaire ésotérique. Alors, les mondes parallèles, ce serait quoi?
Bon, les mondes parallèles, disons que nous autres, on fonctionne dans un univers dont le taux temporel est fixé. Okay? On va revenir, justement, pour répondre à la question, je vais revenir à la vitesse de la lumière. Quand Einstein a dit que la vitesse de la lumière était constante, okay, ce que ça veut dire, la vitesse, c'est quoi? Okay, on dit, ben, c'est une vitesse, c'est quoi? Ben, c'est quoi? Ben, c'est... Moi, je me promène dans l'espace, ça me prend tant de temps pour faire tant de telle distance, donc c'est une vitesse. C'est pas ça, prendre toute une vitesse. Ben, c'est ça, la vitesse, mais pas la vitesse de la lumière. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut voir la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, la vitesse, premièrement, V, okay, c'est delta X sur delta T, c'est-à-dire une variation d'espace sur une variation temporelle. Mais ce que ça veut dire encore beaucoup plus profondément, c'est ton intervalle spatial divisé par ton intervalle temporel. OK? C'est-à-dire que si on dit que ça, c'est égal à C pour la lumière, ça veut dire que la lumière, si elle a un intervalle temporel, mettons que nous autres, on a un intervalle spatial de 1,5 m. OK? Une moyenne, 1,5 m. Bon, ça, c'est notre intervalle, notre longueur caractéristique. À ce moment-là, la longueur temporelle à laquelle on va réagir va être de 1,5 m sur, ben ça c'est 2,9979 × 10⁻⁷. Ça va être 1 sur 2, ça va être à peu près 10⁻⁹ s. Ça veut dire que notre organisme fonctionne à l'intérieur à toutes les nanosecondes. Et que si on change notre intervalle spatial, ça ici, ça va changer pour correspondre. C'est oui. Ça, c'est la base de toute la relativité là, qui dit que les jumeaux qui s'en vont dans l'orbite, là, ils reviennent plus jeunes que ceux qui restent à la Terre. C'est tout ça. C'est que justement, à cause de la vitesse, sa longueur s'est comprimée. OK? À cause de la vitesse, plus ça avance vite, la transformation de Lorentz, ça, c'est que gamma est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. C, c'est la vitesse de lumière. V, c'est la vitesse. Bon. Ça, si tu fais une courbe, je m'excuse d'être un peu ésotérique, mais c'est de la place. Hein? Si tu fais une courbe de gamma en fonction de la vitesse, ça ici c'est la vitesse, ça ici c'est gamma, ça part à 1. OK? Puis ça monte comme ça, mettons ça ici c'est la vitesse de la lumière, c'est ici. Ça s'en va comme ça. C'est quasiment droit tout le long, jusqu'à ce que tu arrives à la vitesse de la lumière, là ça monte de même. OK? Ça, c'est le facteur de correction de relativité. C'est ça qui dit que lorsque tu vois la vitesse qui est de 0,9 fois la vitesse de la lumière, mais ton intervalle temporel est 7 fois plus grand qu'elle l'était sur la Terre. Et puis ton intervalle spatial est 7 fois plus petit. OK? C'est-à-dire que si moi je me mesure par rapport à l'univers quand je vois la vitesse de 0,9, la vitesse de la lumière, moi je vais trouver que l'univers est 7 fois plus gros que quand je l'avais avant. OK? Puis je vais trouver que moi, mon temps passe 7 fois plus lentement que l'autre. Mais c'est justement à cause, encore une fois, de cette conservation de la vitesse de la lumière. C'est que ton intervalle spatial sur ton intervalle temporel est toujours constant. Toujours constant. Puis c'est encore une fois la raison pourquoi la lumière arrive toujours sur la même vitesse.
Je ne sais pas si j'ai...
Les corps, à ça, je vais continuer avec les corps. Là.
Non, une autre extension à cette explication-là. J'ai toujours été surpris de voir la vitesse à laquelle les petits animaux réagissent.
Et
plus on va avec des gros animaux, plus ils réagissent lentement. Alors, leur intervalle de déplacement est plus différent. De l'intervalle de temps, je ne sais pas comment je veux.
Ah, c'est ça. C'est-à-dire que plus les animaux sont petits,
okay, ouais, les insectes, là, ça
plus leur delta X est petit, à ce moment-là, plus le delta T va être petit aussi pour que l'un sur l'autre donne la même chose. À ce moment-là, pour un animal qui a un pouce long, il va vivre chaque intervalle temporel par rapport à nous autres, peut-être justement un millième de la nôtre.
Donc, il va être conscient plus.
Plus rapidement.
Plus rapidement.
Plus de...
Que nous, on peut l'être oui. Dans le même espace de temps.
C'est ça. C'est ça.
C'est ce qui fait qu'il nous voit venir avec la main quand on veut l'écraser. Il dit, tiens, il veut m'écraser, hein? Il est parti. On s'est fait mal. OK.
Et encore, il y a des exceptions là-dedans, parce que là, on parle d'espace du temps, mais on n'a pas parlé d'ordre. Puis l'ordre, ça peut tout changer, ça.
Oui, parce que c'est vrai, ça. Il y en a trois, là. Depuis le début, l'espace, le temps, l'ordre, vous le placez comment dans cette théorie-là?
Ah mon Dieu, il est dur à placer. Disons que l'ordre influence à la fois l'espace, à la fois le temps. Là, on est en train d'essayer de trouver une équation caractéristique là, qui, justement, te donnerait, te dirait, bon, ben si tu veux exister dans l'univers, il faut que tu obéisses à cette équation-là, qui va réunir l'ordre, l'espace et le temps. À date, on a une équation qui réunit l'espace et le temps, que j'ai mis là, là, qui vient de la relativité. Évidemment, les scientifiques ne sont même pas au courant de l'ordre existe. Fait que, pour l'instant, on n'a pas l'équation qui gouverne tout ça. Je travaille dessus, je suis pas rendu proche de la trouver, parce que c'est tout réinventé, c'est pas drôle. Mais disons que l'ordre va agir sur l'espace. C'est-à-dire que plus tu as d'ordre, et plus ton espace, ton intervalle spatial va être petit. Ça se comprend dans le sens que si tu regardes l'ordre qu'il y a dans un cristal pur, parfait, est énorme, et pourtant le cristal ne prend pas de place. Mais pour un morceau de sable, qui n'a pas d'ordre dans tout, il va prendre beaucoup plus de place. Ça fait que l'ordre va agir sur l'intervalle spatial, et par conséquent, va agir sur le temps aussi.
Est-ce qu'on pourrait dire que ce serait une nouvelle direction dans laquelle la science pourrait s'orienter, essayer de découvrir les lois qui incluent l'ordre dans tous leurs calculs?
Oui. Oui, parce que l'ordre est relié énormément avec l'entropie, je parlais tantôt. Il est relié à la densité. Il est relié à la masse. Tu sais, l'équation fondamentale de MC carré, là, on a le M là-dedans, là, c'est un facteur qui n'est pas directement à l'ordre, mais qui est associé avec l'ordre. C'est-à-dire que plus l'ordre augmente, plus ta masse va augmenter pour le même volume.
C'est drôle parce qu'on parle en ésotérisme, Dieu en trois personnes. Tu as le Père qui crée l'ordre.
C'est là que je suis venu chercher ça. C'est l'ésotérisme que j'ai dérivé ces principes-là. Je suis pas parti de la science.
Ça, c'est original de
oh,
toi,
oui,
ça?
Oui, c'est original de moi. Je peux pas inclure aucun physicien. Ben, pas dans ce qui s'agit de l'ordre, en tout cas.
Parce que la question de la Trinité, la Trinité, dans le fond, au départ, ça vient de toi, ça?
Oui.
Bon, alors, c'est pour ça qu'on l'a comme invité aujourd'hui aussi, parce que ça explique bien des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, dans le Père, qui serait celui qui crée l'ordre de choses dans l'univers, après ça, tu as l'Esprit qui est...
Ça serait difficile, tu sais, les trois piliers de l'antiphérotique, là.
Oui.
Le vouloir, le pouvoir et le Keter. T'as Bina.
Akma.
Mm-hmm. Bon, t'as la sagesse, l'intelligence, puis la volonté. Bon. Sagesse, intelligence, la volonté. Parce que la sagesse est innée, l'intelligence se développe et la volonté toujours là. Je ne sais pas comment tu peux faire. Avec la Trinité des chrétiens, ils ont tellement mélangé ça qu'il n'y a plus rien à comprendre là-dedans. C'est mieux de repartir à la base avec la cabale, puis là, tu vas dériver le reste. Parce que la Trinité chrétienne, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Oui, mais là, tu reviens à la même chose. Là, tu as le Père. La
oui.
Sagesse, c'est laquelle?
Celle-là.
Bon, ben ça, c'est le Fils.
C'est le Fils.
Puis l'intelligence,
l'esprit.
C'est l'Esprit. L'Esprit d'intelligence.
Mm.
À la fin des temps, il doit nous envoyer l'Esprit.
Mm-hmm.
Il n'y aura pas de fin des temps, dans le fond. Tout est cyclique, tout
revient.
Tout est
cyclique, oui.
Tout se transforme.
Ouais.
Rien ne se perd et rien ne se crée. Ça reste toujours, ça?
Toujours. C'est d'ailleurs, s'il y avait quelque chose qui s'était perdu, on n'existerait plus.
Maintenant, l'on dit...
Si l'univers n'était pas ordonné, on n'existerait plus. Et ça fait des milliards et des milliards d'années qu'il existe. Tu sais, les physiciens, ça m'embête énormément de leur part. C'est qu'ils sont donc forts ces probabilités. Tu fais de la mécanique quantique, tu fais des probabilités. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est charrier, là, mais c'est pur et simple, c'est vrai ce que je vous dis là. Savez-vous pourquoi que moi je suis ici, que toi tu es ici, puis que les autres sont ici? La réponse d'un physicien, c'est parce que la probabilité que tu sois ailleurs est plus faible que celle que tu sois ici. Ça, c'est vrai, hein, je vous jure, c'est vrai ce que je vous dis là. Ça, c'est la mécanique quantique, la branche la plus avancée de physique qu'on a. Probabilité. Les physiciens parlent de probabilité. Quand tu arrives avec la théorie des gaz, la thermodynamique, tout ça, encore une fois, tu sommes dans la probabilité. Mon vieux, je vous dis, si l'univers fonctionnait par probabilité, il est fort probable qu'on s'appuie là.
Alors, si on en revient maintenant dans le domaine de l'ésotérisme versus la science, on parle des corps subtils de l'être humain. Dans presque toutes les écoles ésotériques qui se croient très originales, ils vont dire on a un corps physique, un corps mental, un corps émotionnel, le corps astral, le corps de lumière, etc.
Physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique et atmique, sept corps. Ça, c'est physique. Donc, le corps de gloire de Jésus était physique, c'est corps atmique. Ça, c'est électrique. Ça, c'est électrique. Ça, c'est magnétique. Ça, c'est magnétique. Ça, c'est lumière. Ça, c'est physique. Ça, c'est physique. Ça, c'est lumière. Donc, les corps subtils, là, c'est des corps qui sont typiquement des champs de force. Ça, c'est un champ de force matérialisé. Le corps atmique, c'est un champ de force. Mais peut-être que si je mettais tous les mots, ça aiderait plus, hein, les lettres. Hein?
Oui, c'est ça. Là. Bon. Là, on va mettre une belle page blanche.
C'est
l'ordre des
ça m'impressionne. Bon, on part en bas. On part avec le corps physique. OK. Le corps éthérique, qui se trouve être le corps, le moule, si on veut. OK, sur lequel le corps physique est parti. Quand tu pars en astral, tu pars avec ton corps éthérique. Tu pars pas avec ton corps astral. Ensuite, tu as le corps astral, qui est le corps des émotions. Ensuite, tu as le corps intermédiaire, le corps mental. Je m'excuse, il est à gauche, c'est parce que... Ensuite, OK, corps causal, le corps bouddhique. C'est un peu plus dur pour nous autres de définir ce que ces trois corps-là font, parce que nous autres, on est déjà pognés là-dedans, fait que c'est comprendre ce qui est au-dessus, c'est un peu plus dur.
C'est rare de trouver un gars qui est deux pieds sur la terre, qui a fait des études assez avancées dans un domaine aussi matériel que la physique, puis qui se retrouve avec des termes qu'on a dans le domaine de l'ésotérisme, et très rares sont ceux qui naviguent dans l'ésotérisme et qui sont allés voir le côté scientifique, comme aussi très rares les scientifiques sont allés voir le monde de l'ésotérisme.
Merci.
Alors, bravo.
Ben, moi, je veux dire, hein, quand j'étais à McGill, là, les profs me voyaient arriver et ils fermaient les portes. Ils ne voulaient pas me voir. J'ai posé des questions trop embêtantes. Là, ça allait prétentieux, je ne veux pas avoir l'air prétentieux, là. Mais quand j'allais voir, par exemple, on parle de l'électron qui nous dit, bon, ben, il n'y a pas de volume, mais il y a une masse. Il n'y a pas de volume, mais il y a une masse. Je lève ma main, je dis, monsieur, êtes-vous en train de parler d'un trou noir? Vous êtes en train de nous dire que le photon, l'électron, c'est un trou noir. Il dit, tu veux que ta gueule. Quand je l'ai fermé, ma gueule, je voulais passer mes cours. Bon, on revient à ça. Le corps éthérique, il est électrostatique. OK? Électrostatique. Le corps astral, il est magnétique. Je dis ça de la connaissance de cause parce que j'ai bâti une petite machine qui permet de détecter le corps éthérique. C'est typiquement électrostatique. Le corps physique, lui, il y a les trois. Le corps mental a les trois, mais non coagulés. C'est-à-dire que le mental et le physique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un est coagulé, l'autre ne l'est pas. Puis l'atmique aussi, c'est la même chose. Tu sais, tu as le reflet. Comme ça.
Le reflet de ce qui est en haut et le reflet de ce qui est en bas.
C'est la même composition, mais sur un taux vibratoire différent. C'est-à-dire que le corps magnétique astral, le corps causal va être magnétique comme l'astral, mais le causal va être sur une fréquence plus élevée que l'astral. Le bouddhique, pareil, l'atmique, pareil. C'est-à-dire que le corps physique atmique va nous apparaître souvent comme lumière. En réalité, il est physique, mais il vibre tellement à haute fréquence qu'il ionise tout ce qui se trouve dans notre atmosphère qu'on le fait en lumière. C'est vraiment simple. C'est la simplicité de l'univers n'est pas tout le temps, malgré que les physiciens aiment bien ça compliquer les choses. Hein, mais...
Alors, si c'est électrique, là, c'est magnétique. Qu'est-ce que ici, ce serait le troisième élément, l'ordre?
L'ordre, c'est ça, la gravité.
La gravité. C'est ça. D'ailleurs, le corps physique, sa propriété, c'est toujours tomber à terre.
Ça va être mieux aussi. Ça, faut faire attention. Ceux qui se ramassent ici, des fois, ils sont pas assez près.
Ils tombent au ciel, déjà.
Non, ils tombent sur la terre. Ils tombent au ciel, hein.
Oui, ce ne serait pas le mouvement qui les fait tomber dans
l'eau. Ils sont liés. Tout est lié ici, un avec l'autre. Puis, c'est comme une espèce de mouvement circulaire. C'est que tu as l'astral d'un bord, puis tu as le causal de l'autre, puis ça tombe sur un autour de l'autre.
L'esprit, l'âme, c'est où dans ça?
C'est générique, ça, ces termes-là.
Les anges, ça serait fait de quoi?
Oh mon Dieu. OK.
Les fantômes, ça serait fait de quoi?
Les fantômes, c'est souvent cette partie-là ici qui reste. Hein.
Astral et éthérique.
Astral, éthérique, mental, musique, ethnique. Tout ça ici, l'ethnique n'existe plus. Mais ces cinq corps-là ici sont encore là. On perçoit la forme du fantôme par l'éthérique, on perçoit ce qu'il veut par l'astral, puis il fait ce qu'il veut avec le mental. Quand on parle des anges, on va prendre sur une autre ligne d'évolution. Ça, c'est le temps. Si on part aux animaux, les animaux sont ici, mettons, OK? Ils évoluent dans le temps. Ils évoluent dans le temps avec des qui suivent les humains. Hein, fait que... À un moment donné, les animaux ont fini leur évolution. Là, ils s'en vont, font un jump, ils s'en vont, ce qu'on appelle les anges. C'est-à-dire que lorsque tu as fini l'évolution matérielle, incarnée, physique, là, tu t'en vas en prenant ton corps atmique, puis tu montes au ciel, puis là, tu fais un autre job. Là, tu es un ange. Les animaux, terminer l'évolution. Il faut qu'ils passent par un des quatre animaux, soit le chat, le chien, le cheval, puis l'éléphant. Pourquoi ces quatre-là? C'est parce que c'est les animaux les plus évolués, pas dans le sens qu'ils ont l'intellect le plus évolué, parce qu'un singe a un assez bon intellect, mais parce que c'est des animaux qui sont capables de vivre en harmonie avec l'humain et donc qui sont prêts à transiger, à transcender le niveau animal pour devenir niveau humain. Mais avant de devenir humain, ils sont anges. Ceux qui ont terminé leur évolution animale, ils sont les anges. Les anges, eux autres, sont la même chose. Ils ont les sept corps, la même chose que les nôtres. Mais le corps physique n'est pas sur le même taux temporel, donc on ne peut pas le percevoir. Le corps éthérique, astral, tout ça, c'est tout pareil. Les anges, les archanges, tout ça. Mais c'est tout sur un... Tu sais, comme ton spectre tantôt, tu es visible, tu es ici, là, ben, les autres sont là. Ils ne sont pas dans le film. Ils sont sur un autre niveau d'énergie. Ensuite, lorsque
l'ange... Il n'y aurait pas moyen d'entrer en relation avec eux, puisqu'on a des appareils à ondes courtes, on a des appareils à extreme low frequency, là, de ondes très très longues.
Excessivement simple.
C'est simple
à mourir.
Oui, mais avec
un
appareil.
On n'en a pas de le sortir, par exemple. Je tiens à rester...
Ah, simple à mourir, tu dis.
Oui. Ah, c'est
fabriquer un appareil pour entendre ou rentrer en relation avec les autres.
Des fantômes, avec ce que tu veux dire, c'est niaiseux.
Bon, on va se cotiser ici après-midi, là. Oui, bien, ce serait quoi, donc? C'est simple, c'est d'aller jouer sur les taux vibratoires.
C'est ça. Le seul problème qu'il y a, là, c'est que, mettons, tu prends, je dis bonjour. Okay? Bonjour, c'est... Ça, c'est bonjour. Okay? Mais ça, l'onde porteuse de ça est ici, à très, très haute fréquence.
Le carrier,
là? Le carrier, c'est ça. Il est à très, très haute fréquence. Il faut que tu trouves à ralentir le carrier sans changer de message. C'est ça qui est plus compliqué.
Ouais. Ouais,
parce que le message est toujours bien important par rapport au carrier. Il faut que ton message soit bien modulé sur ton carrier pour que tu puisses avoir une décode qui est comme il faut. But si tu ralentis ton carrier, tu risques de perdre ton...
Est-ce qu'il n'y aurait pas un carrier universel? Une onde porteuse universelle? La voix du Père, ce qui t'entend?
C'est possible.
Au début, c'était le verbe et le verbe était... Tu sais?
C'est fort possible. Donc, je ne sais pas. Il faut revenir à mon ange. Lorsque l'animal a évolué, il est devenu un ange. Bon, là, il y a pour la première fois de sa vie, parce que pour la fois de son évolution, il a le choix. Il a le choix de soit poursuivre son évolution, OK, c'est-à-dire descendre dans la matière, parce que pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait matière. Tu peux évoluer dans l'esprit. Tu peux évoluer d'un corps subtil, tu peux évoluer, mais tu ne pourras jamais obtenir ton diplôme tant que tu n'auras pas mis en expérience tes connaissances. C'est-à-dire qu'un esprit désincarné, c'est pour ça que je me méfie énormément des messages qui viennent des esprits. Parce que la valeur du message de l'esprit n'est pas plus valable lorsqu'il est esprit qu'il était quand il était matière. Parce que si tu prends l'esprit va avoir le même tour d'horizon qu'il avait quand il était sur la Terre. Donc, s'il était borné, puis après ça, il va te parler des lois de l'univers, ben oublie ça. T'sais, il essaie de te raconter des belles. Puis, hein.
Alors là, il doit venir faire l'expérience. Et
l'expérience de lui, mettons, il est esprit, là, il dit, bon, ben ça devrait être comme ça, ça devrait être comme ça, ça devrait être comme ça, ça devrait être comme ça. Bon, ben là, Dieu dit, correct, si tu pensais comme ça, descend sur la Terre, puis il va l'expérimenter. Puis on va dire les résultats. Je parle bien simplement, là, mais c'est à peu près ça qui se passe. Bon, l'ange redescend sur la terre. Ça, c'est la chute des anges. On a appris dans le paradis. Hein. On n'a jamais expliqué, mais là, c'est ça. Là, on repart comme un homme. Il peut rester ange aussi, mais la différence entre l'ange et l'archange qui s'en vient ensuite, c'est que l'ange ne prend pas de décision. Sauf la décision primaire de redescendre, de rester là, il ne prend pas d'autres décisions. Il obéit au doigt et à l'œil. Il est très faible aussi. Donc, si, par exemple, un ange s'incarne dans la matière, s'il n'y a pas trop d'archanges autour, il va se manger tout rond. Fait que l'ange s'incarne dans la matière, là, il fait son évolution comme humain. Bon, je devrais être comme ça, là, en bas de l'allée. Puis là, il remonte. Il a fini son évolution. Oui. Il s'en va en haut, il s'en va archange. Il devient archange, parce qu'il a fini son évolution en matière. Ensuite, il y a encore bien des étapes après ça. Ça continue à l'vitam éternel jusqu'à ce que tu reviennes au début, mais dans un autre cycle. Là, tous ces mondes-là ici, l'ange, l'archange, le père, qui est 3-4 000 altitudes là, par rapport à ça. Là.
Bon, il y a 7 niveaux des anges, là. Mm-hmm. Les déchets des anges, les trônes, les dominations, les archanges, les chérubins, les séraphins.
Moi, je m'inquiète pas trop avec tous les noms qu'on a donnés, parce que ça m'embête un peu. Les anges, les archanges. Ceux qui ont les archanges, la différence entre les anges et que les archanges sont capables de prendre le contrôle, c'est-à-dire qu'ils ont des responsabilités, parce que c'est ça la liberté, hein. Ça, c'est les gens pas compris, je m'excuse, je change le sujet, là, mais ça va revenir. C'est que l'homme, Dieu a donné à l'homme au départ au paradis la chose fondamentale, la liberté. Les gens ont, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est énorme, parce que c'est de la liberté que vient la télékinésie. C'est de la liberté que vient tous les pouvoirs psychiques. C'est de la liberté qui viennent toutes ces choses-là. Parce que la liberté, c'est de faire de ta vie ce que tu en veux. C'est fort, ça. C'est un pouvoir. Puis c'est toute une responsabilité. Puis c'est d'ailleurs pour ça que le karma est arrivé. C'est à cause de la responsabilité de la liberté. Tu sais, tu peux pas donner à un gars, donner un coupant d'une face parce qu'il a fait un ordre que toi, tu as donné de faire. Toi, tu dis, moi, tu es un soldat. Moi, je te dis, va tuer un homme. Mais que tu me reviennes, je n'irai pas te mettre en cours parce que tu as tué quelqu'un. Tu n'avais pas le choix, je t'ai donné l'ordre d'y aller. Mais si de ta propre liberté, tu décides d'aller tuer quelqu'un, ben là, je vais être obligé de te faire payer pour. Parce que c'est de ta liberté que tu as pris la décision. Donc, liberté implique responsabilité, implique pouvoir sur la matière. Présentement, il y a un paquet de ces gens-là, puis de ces gens-là sur la Terre. Énormément. Énormément. Il y a un paquet. Bon. Là, je m'en viens ésotérique, je lâche la science, puis j'espère que je ne fais pas tout rire de moi. Il y a un paquet d'archanges sur la Terre. D'ailleurs, je regarde des gens qui sont ici, puis je dirais qu'à peu près 30% des gens qui sont ici qui sont déjà archanges. Puis le reste sont probablement des anges. Ben, remarquez que je vais vous dire une chose. Les anges et les archanges, c'est la hiérarchie, là, ça vient de l'ordre séphirotique, okay, avec les 9 principes des forces là, qui gouvernent, là. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà étudié l'ordre séphirotique? C'est ça? Les autres, c'est totalement... Tu peux. Moi, on en a fait un petit peu. Bon, ça marche. Je n'irai pas bien loin. Là-dedans, tu as les 9 dominations. La Terre est ici, dans le royaume. Puis tu as le Père, ou pas le Père, mais le représentant du Père, parce que le Père est à peut-être 1 milliard d'arbres en haut de ça, là. Ça, c'est chacune de ces boules-là, de ces sphères-là, a une qualité en particulier. Les archanges sont au contrôle.
Écoute donc, oui. J'ai le goût de t'arrêter parce qu'aujourd'hui, j'aimerais mieux, étant donné qu'on a un autre invité qui doit passer après toi, te demander de revenir dimanche prochain juste sur des notions ésotériques. Aujourd'hui, j'aime mieux là, qu'on ait des réponses à nos questions scientifiques. Okay. OK?
D'accord.
Puis on d'accord. Rétablira d'autres
tableaux. Charge de page.
Non, pas tout de suite. Parce que j'aimerais savoir, moi, comment l'éthérique, ça se mesure. Tu dis, il y a un appareil qui existe là, pour mesurer le corps éthérique.
Un appareil que j'ai bâti pour mesurer ça. J'ai pensé l'amener aujourd'hui, mais j'ai dit, oh, que je vais faire avec des bebelles la même.
Ben, c'est la journée, là, des bebelles, là.
Ben, j'ai bien vu ça.
Non, mais le corps éthérique, ça se mesure. Électriquement.
Oui, c'est un corps électrostatique.
Est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'on appelle là, la photo Kirlian?
C'est exactement la photo Kirlian.
Bon, est-ce que ça nous permet effectivement de voir l'état de santé de quelqu'un avant que sa santé se détériore dans le plan physique? On peut le détecter sur le plan éthérique?
Mais oui.
Est-ce qu'on peut le corriger avant qu'il tombe sur le plan physique malade?
Non. Pour que tu peux guérir le moule, OK? Tu peux guérir l'éthérique, c'est le moule, OK? C'est la matrice, si on veut.
Donc, on peut l'affecter avec l'électricité.
Oui.
Les fils électriques qui sont exactement. Dans nos maisons, ça affecte notre corps éthérique.
Et donc, astral aussi, parce que nous autres, on parle toujours de carrière alternatif. Hein? Quand je dis qu'il y a un changement de variation du champ électrique dans le temps, tu as un champ magnétique qui est arrivé. Donc, tu as les deux corps ici qui sont tout le temps influencés par tous les fils électriques qu'on a dans la maison. Mais tu peux, disons, rétablir le corps physique en harmonie avec l'éthérique. C'est ce que l'acupuncture fait. Tu vas voir, regarde. L'acupuncture, c'est quoi? C'est de prendre des points puis de mettre des petites aiguilles. Mais pas n'importe quelle sorte de petites aiguilles. Des aiguilles de métal. Pourquoi le métal? Parce que le métal ne peut pas supporter de différence de potentiel entre ces deux bornes. Ça veut dire que tu te mets au même potentiel électrique sur un bar que tu as sur l'autre. Que tu te mets ça dans ton corps éthérique. Le corps éthérique a un champ, son champ électrostatique. Transmets ça au corps physique. Puis là, tu rétablis l'équilibre entre le corps physique et le corps éthérique. Typiquement électromagnétique, typiquement électrostatique.
Et les points d'acupuncture sur le corps physique correspondent à quoi?
Correspondent justement à des nœuds d'énergie. Je veux dire, si tu as un fil qui passe comme ça, un fil qui passe pas comme ça, puis un fil qui passe comme ça, ben, tu vas avoir un nœud ici. Avec les nerfs, c'est la même chose. C'est des fils électriques, ça, d'ailleurs. Ça, c'est pas moi qui le dis, ça. C'est la biologie.
C'est ça. Donc, on voit comment on pourrait maintenir la santé
mais attention,
du corps physique.
Attention. Tu peux jamais dire l'acupuncture, tout seul, ça marche. Parce que même si tu guéris le moule, si tu guéris pas le physique lui-même, c'est-à-dire que si tu prends pas une autre alimentation, une autre respiration, un autre mode de même dans le mental, ça va interagir, parce que le mental, il y a tout, il y a l'électrique, il y a le magnétique, qui lui aussi peut agir sur ces deux-là. Il faut que tu fasses un traitement global. C'est-à-dire qu'il faut que la personne, tu vas, OK, guérir le moule. Mais si tu fais pas rien pour ton physique, le moule va se recasser. Parce que c'est beaucoup moins solide que le physique. Le physique, c'est lui qui est solide dans la matière. C'est lui qui a la force, c'est pas l'éthérique. L'éthérique, tu peux le changer, mais si tu fais pas attention pour reprendre une alimentation puis faire en sorte que ton physique ne se débalance plus, il va redébalancer encore l'éthérique.
Et le corps astral, quand on dit faire un voyage astral, ça veut dire partir magnétiquement, là, on quitte la Terre ou on quitte sa chambre puis on s'en va?
Bon, tu prends ton corps éthérique, premièrement. OK, mais ça, l'éthérique et l'astral sont bien difficiles à dissocier un l'autre. Ensemble, ben, c'est comme nous autres, hein, quand on parle d'électricité, c'est bien du misère à parler d'électricité sans parler de magnétisme. C'est toujours tellement lié un avec l'autre. C'est-à-dire qu'aussitôt que ton corps éthérique se trouve à avoir une petite variation dans le temps de son intensité, tu as une influence astrale qui embarque. Fait que si tu n'amènes pas ton corps astral quand tu vas en éthérique, tu n'as pas aucune émotion. Fait que tu amènes l'astral et l'éthérique. On dit que c'est du voyage astral. Pourquoi? Ça, je me suis posé la question longtemps. Pourquoi que le monde appelle ça du voyage astral? Qu'est-ce que ça a à faire avec l'astral, finalement? C'est juste que des gens, astral vient du mot stella, strella, qui veut dire des étoiles, qui veut dire un nom, quelque chose de étoilé ou, quand tu es flyé, tu es dans les étoiles. Bon, ça, c'est un peu la même connotation. Le voyage astral, c'est ces deux corps-là, et puis évidemment le mental qui agit par projection. C'est-à-dire que ton mental reste avec toi, mais c'est une projection de ton mental qui suit les deux corps inférieurs. Okay? C'est-à-dire que c'est lié par, encore une fois, la ligne de le fil d'argent, là, le fil d'Ariane. Bon, c'est ton mental qui n'est pas directement déplacé. Ton mental reste dans ton corps physique. Il est endormi, c'est le mental qui est projeté, qui est avec, c'est toujours la dualité des deux pôles, là. Une partie qui est projetée avec ton corps astral. Donc, pour les gens qui sont plus terre-à-terre, là, bon, ça c'est l'astral, ça c'est physique. Si tu veux maintenir deux points, notre physique, l'astral puis le mental.
On divise souvent dans l'Église le corps, l'âme et l'esprit.
Ah, puis je suis donc content que tu m'amènes ça. Parce que justement, c'est une passée chez Dr. Grab, là. Il a parlé, puis il a parlé de l'œuf. Bon, il fallait comprendre le corps, l'esprit et l'âme. Prenez un œuf. OK? Passez de trois parties. Vous avez la coquille, qui est le corps. Vous avez le centre, qui est l'esprit. Puis vous avez le blanc, qui est l'âme. Encore une fois, le corps, l'âme et l'esprit, ça se trouve être un pôle, l'autre pôle, puis le champ de force entre les deux. Le corps protège l'esprit, et puis l'esprit communique au corps par l'âme. C'est-à-dire que tu as un lien entre ton esprit et ton corps. Là, tu sais, quand tu vois des fous là, qui sont vraiment partis, là, ben c'est justement qu'ils ont coupé ce lien-là entre leur corps et leur esprit. C'est qu'ils n'ont plus aucun contact entre l'esprit et le corps. À ce moment-là, le corps fait ce qu'il veut, puis l'esprit a beau dire, ben moi, je voudrais pas faire ça, mais c'est fait pareil. Parce que tu as coupé le lien ici. Tu as coupé, autrement dit, tu as vidé tout le blanc qu'il y a, que l'esprit n'a plus aucune protection. Aussi, c'est une pichinotte, tchou, ça coule. La forme de l'œuf, non pas seulement dans sa forme géométrique de stabilité et de force, c'est la forme la plus forte. Ça. Tu prends un œuf comme ça, passer de la cassante et de main, ils ne sont jamais capables. Sûrement déjà fait l'expérience. Et vous avez fait ça? Oui, hein? C'est pas un F.